Je suis Adrien Garcia, entrepreneur, designer et cofondateur de la marque de vêtements Réunis. Et vous écoutez The Bold Way. L'avenir appartient à ceux qui remettent en cause l'ordre établi. Mais comment réinventer les règles, créer des projets iconiques et des œuvres qui marqueront l'histoire? The Bold Way est le podcast qui rentre dans la tête de ceux qui excellent dans leur domaine. Mode, divertissement, food, design, art ou business. Leur point commun? Le travail, l'audace, l'innovation et une attention toute particulière à la créativité et à l'esthétique. Ma mission est de décortiquer leur méthode et leur état d'esprit à travers des interviews longues et sans filtre, pour vous donner les clés de leur succès et vous inspirer à créer votre propre chemin. The Bold Way est plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement qui encourage chacun à trouver sa propre voie, à tracer son propre chemin et à innover dans son domaine. The Bold Way est là où la créativité et l'innovation rencontrent le business. Bonne écoute. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans The Bold Way. Je suis aujourd'hui avec India Madhavi. Bonjour India.
Bonjour Adrien.
Je suis très heureux de vous rencontrer et de vous interviewer. Vous êtes pour moi une star dans ce monde. Et c'est vrai que ce que je me disais en venant, c'est que vous faites partie quand même de ces designers, architectes stars que le grand public connaît. Et c'est assez rare finalement parce que, en tout cas, mes parents vous connaissaient. Et mes parents, c'est un peu les talons or. Parce que souvent, je leur dis des noms, ils connaissent pas. Et parfois, il y a quelques personnalités comme ça qui connaissent. Donc, vous êtes connus du grand public.
Oh, oui, je sais pas à quel point, mais je pense que c'est parce que j'ai essayé de diversifier mon travail. Aussi bien en faisant des collaborations avec Monoprix qu'en faisant des projets un peu plus pointus. Enfin, pas que Monoprix ne soit pas pointu, mais en tous les cas, en faisant des projets plus précis à travers le monde. Et ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé faire.
Ouais.
De travailler. En fait, dans l'exercice de ma profession, j'ai essayé d'abolir toutes les frontières qu'on pouvait avoir entre toutes ces disciplines. Donc, entre l'architecture d'intérieur, la décoration même, mais aussi le design de produits. J'aime bien travailler des échelles différentes, dans des pays différents. Et je crois que ça fait partie de mon ADN, ouais, d'une certaine façon.
Très bien. Alors moi, je vais un peu vite en besogne, hein. Je commence l'interview de plein pied. Mais avant, pour contextualiser un petit peu, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on se trouve là, India?
Ici, on est chez moi,
ouais,
à Paris, rue de Grenelle, juste à côté de mon de la rue Lascazes, qui est un peu
mon
fief, voilà. Et c'est vrai que j'ai tout rassemblé un peu au même endroit, c'est plus facile pour moi. Et la rue Lascazes, où je me suis installée dès le début de l'exercice de ma profession, en tous les cas, j'ai commencé comme architecte intérieur, comme vous pouvez le savoir, et rapidement j'avais cette petite frustration de travailler partout dans le monde et de pas avoir un lieu à Paris. Si bien que personne ne savait où j'étais, pensait que j'exerçais à Londres, que je travaillais des États-Unis, ce qui était vrai. J'avais pas mal de projets un peu partout, mais j'avais envie d'avoir une adresse à Paris. Et donc j'ai commencé à dessiner du mobilier un peu de pour mes projets que j'ai rassemblé dans un lieu, rue Lascazes. Et puis au fur et à mesure, ce lieu s'est étendu. J'ai trouvé un studio juste à côté. J'ai ouvert en 2011 une petite boutique d'objets. Et récemment, un autre espace que j'appelle le Project Room et qui rassemble... et qui me permet de faire des petites expositions. C'est un lieu d'expression libre. Voilà, donc j'ai un peu tous ces... Et puis mon showroom de meubles, évidemment.
Très bien. India, j'ai oublié de vous demander en début d'interview, est-ce qu'on peut se tutoyer?
Oui, bien sûr.
Très bien, merci beaucoup. Je tutoie tous mes invités et à chaque fois j'oublie de demander, donc je le fais en cours de route. India, Tu nous as déjà expliqué un peu ce que tu faisais, qui tu étais. Moi, j'aimerais bien revenir aux origines de tout ça. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? Qu'est-ce qui t'a amené à... Ce qui est marrant, c'est que on sent que tu fais les choses avec beaucoup d'ambition. T'es connu internationalement, etc. Et en même temps, ça a l'air assez simple, fluide, très organique. J'écoutais quelques... tu lèves les yeux au ciel.
Mais non, pas du tout.
Qu'est-ce qui... Déjà, t'es née où, t'as grandi où et qu'est-ce qui t'a amenée à faire ce métier?
Alors, je suis née à Téhéran, d'un père iranien et d'une mère égyptienne. J'ai grandi aux États-Unis, à Cambridge, Massachusetts, puis en Allemagne, et puis en France, dans le sud de la France. Et je suis arrivée à Paris quand j'avais 14 ans. Mmh. Je suis allée au lycée à Paris. Et en fait, j'imaginais que je pourrais faire des films. J'avais envie d'être, d'être réalisatrice de films. Et à l'époque, c'était après mon bac, c'était assez compliqué de trouver la bonne voie. Il n'y avait qu'une seule école, il y avait l'IDEC, qui maintenant s'appelle la FEMIS. Et c'était plutôt un diplôme de deuxième cycle. Et donc je me suis dit, comme j'avais une passion pour le cinéma et que j'allais au cinéma 3 fois par jour, je me suis dit, finalement, l'architecture, c'est ce qui pouvait se rapprocher le plus de cette profession. En tous les cas, c'était un métier visuel et j'avais lu le parcours de Fritz Lang, qui avait une formation d'architecte et qui était venu au cinéma un peu plus tard. Donc, je me suis dit, c'était peut-être une bonne voie pour moi.
Qu'est-ce qui t'a attiré dans le cinéma?
En fait, c'est ce qui m'a attiré dans le cinéma, c'est vraiment la possibilité de créer des mondes différents, de raconter une histoire qui n'existe pas et aussi de créer des mondes visuels qui me paraissaient plus en relation avec ce que j'avais envie de vivre. Mmh. Et au final, le métier que j'exerce aujourd'hui est assez proche parce que finalement, je crée des lieux qui sont tout aussi vrais, enfin qui sont presque plus vrais que le cinéma, mais en tous les cas, j'essaye d'offrir aux personnes qui vivent ces lieux une sorte de monde imaginaire où ils sont eux-mêmes les acteurs de leur propre vie.
C'est l'ambition c'est ton ambition de créer des mondes imaginaires pour les gens?
Mon ambition, c'est surtout d'apporter une forme de joie, je crois, d'être un peu transportée dans un lieu. Moi, je sais que depuis que je suis petite, c'est toujours les lieux qui me rendent joyeuse, qui me permettent de m'échapper. Quand je vois un lieu qui m'inspire, tout d'un coup, je suis transportée. Donc, j'avais envie d'offrir ça, mais c'est tout un parcours en réalité, parce que c'était pas évident quand j'ai fini mes études d'architecture. Je me suis pas dit, tiens, je vais créer des lieux qui vont transporter les gens. Je me suis rendu compte que l'architecture n'était pas un mode d'expression qui était pour moi, parce que il y a un mode de production qui est très long. C'était un monde aussi qui est très masculin, assez misogyne quand j'ai commencé. Et l'architecture, c'est un monde où il faut, on met à peu près en moyenne 7 ans pour construire un projet. Et ce métier, c'est un métier où il faut faire pour apprendre. Et je trouvais que l'architecture d'intérieur permettait d'avoir un mode de production beaucoup plus court, de pouvoir apprivoiser les espaces, de les comprendre et de produire plus rapidement. Mmh. Et donc, naturellement, je me suis inscrite dans ce parcours-là, tout d'abord en travaillant pour Christian Liègre, pour lequel j'ai travaillé pendant 7 ans.
Qu'est-ce que tu as appris aux côtés de Christian Liègre?
Alors, ce que j'ai appris auprès de lui, c'était intéressant parce que j'ai appris la force des matériaux. Il avait une gamme. Christian construisait ses projets à partir de matériaux. Prenait des échantillons qu'il rassemblait en disant travailler autour de ces matériaux. Il construisait l'espace autour de ces matériaux. Alors que quand on travaille dans l'architecture, on part d'une toute petite échelle, on travaille en plan masse et puis finalement on fait un mouvement de zoom vers l'intérieur. Mais on n'a jamais vraiment le temps de traiter des détails comme ça, de traiter le rapport des matériaux entre eux, même l'objet, même le meuble, tout ça, ça nous échappe. Et donc c'était comme un exercice inverse. C'est comme une façon différente de regarder, c'est vraiment de commencer par l'intérieur pour aller vers une échelle plus grande. Mmh. Donc ça, c'était intéressant. Et puis Christian Liègre avait aussi il avait sa propre production de mobilier. Donc travailler une échelle plus petite avec une temporalité différente me paraissait aussi c'est quelque chose que j'ai appris chez lui.
Très bien. Et tu t'émancipes de lui au bout de 7 ans.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe ?
Au bout de 7 ans, donc j'avais fait un peu le tour de tous ces des activités que je pouvais avoir au sein de son bureau. J'étais directeur artistique et mais c'est surtout j'ai eu un enfant. J'ai eu mon fils, Miles. Et là, je me suis posé plein de questions sur l'avenir, sur ce que j'avais envie de transmettre à mon fils. Et j'ai pensé que c'était le moment pour moi d'essayer de prendre mon envol. Et voilà, j'ai commencé comme ça. On m'a appelé tout de suite pour faire un ou deux projets. Et puis, de là, je travaillais d'ici, en fait, de cet appartement.
Ah oui, d'accord, déjà.
J'habitais là. Et je travaillais de ma salle à manger avec, j'avais un fax. Et entre deux biberons et voilà, j'ai tout fait en même temps en fait. Mmh. J'ai embrassé la maternité en même temps que ce qui n'était pas facile en fait, mais c'est des moments je me souviens de ces moments-là comme des moments très précieux parce que c'est tout est nouveau. Mmh. Et après je dirais que une des difficultés c'était aussi de trouver sa propre expression. De dire comment est-ce que je peux, quand on travaille pendant très longtemps pour quelqu'un, on a des réflexes, on a des, c'est imprégné d'un vocabulaire, mmh. Et c'est assez difficile de tout d'un coup s'en détacher, de trouver sa propre expression.
Ouais. Alors comment tu t'y es pris ? Enfin, déjà, il y a un truc sur lequel j'ai envie de revenir, c'est que tu dis je me suis posé la question sur ce que j'avais envie de transmettre à mon fils. Qu'est-ce que tu avais envie de lui transmettre ?
J'avais envie de lui transmettre une forme de liberté, de faire ses propres choix. J'avais envie qu'il puisse être fier de moi et lui montrer qu'on peut construire quelque chose tout seul. Si on a un rêve, on peut le réaliser. Et je pense que ça, c'était important pour moi.
Et le message a été clair.
Un message est clair. Après, c'était presque mais aussi c'est aussi le parcours, c'est tout mon parcours qui était qui m'a amené à faire ça. C'est pas que j'ai cette chance d'avoir de pas avoir grandi dans mes pays d'origine, d'être une femme assez libre, et j'avais envie de faire quelque chose de cette liberté, de faire mes propres choix, de pas être contrainte de travailler pour quelqu'un. C'était très intéressant et j'ai appris énormément de choses, mais voilà, c'était un moment où c'était important pour moi d'essayer de faire quelque chose toute seule.
C'est quoi ton drive profond ? Qu'est-ce qui te pousse à faire ce que tu fais ?
Alors ça, plein de choses, je pense. Un, c'est parce que je crois que je sais faire que ça. Et pour moi, c'était important de faire quelque chose qui est en accord avec non seulement ce que je sais faire, ce que j'ai envie de faire, et c'était une volonté aussi de vivre avec, d'avoir une certaine vie. Voilà, je suis entourée de choses qui me plaisent. Je travaille avec une équipe qui m'intéresse. Je travaille sur des projets, sur des sujets qui m'intéressent également. Mon drive, c'est ça. J'ai jamais pensé, quand j'ai commencé, je me suis jamais dit, je vais devenir la plus grande designer du monde. J'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais pensé à l'ambition que pouvait. Je pense pas avoir été quelqu'un d'ambitieuse. En revanche, je fais mon métier sérieusement. J'essaye de même si ça a l'air, certains de mes projets ont l'air légers, je les fais très très sérieusement. Et moi, ce que j'avais envie, c'est de pouvoir gagner ma vie en faisant quelque chose que j'aimais. Et après, c'est vrai que il y a eu un contexte particulier parce que à l'époque il y avait peu de femmes qui faisaient ce métier-là, et c'était le début de tout ce métier parce qu'il y avait des grandes figures comme André Putman, Christian Lieg, Philippe Starck, c'était vraiment le début de ce métier-là. Mmh. Et voilà, j'ai commencé à travailler beaucoup à l'étranger au départ.
Tout de suite, dès le départ, c'est l'étranger.
Dès le départ, j'ai eu.
C'est quoi ta première commande?
Alors, j'ai commencé à travailler beaucoup à Londres avec Joseph Etedgui, qui a la marque Joseph, et lui m'avait présenté des amis qui ont, donc c'était pour faire une maison à Londres, et j'ai travaillé beaucoup sur des maisons. Et c'était une formidable expérience parce que ça m'a permis de commencer à dessiner du mobilier aussi pour ces lieux. Et très vite, j'ai été appelée à faire des projets aux États-Unis, notamment un de mes premiers grands projets était un hôtel à Miami. Et ça, c'était génial.
C'est
parce
fou.
Le fait de changer de pays comme ça, de tout d'un coup travailler aux États-Unis, à Miami, qui est une ville assez particulière, sur ce projet d'hôtel, ça m'a permis vraiment de casser avec et d'inventer, de commencer à réfléchir sur ce que j'avais envie de dire. Parce que c'est vrai que quand j'étais chez Christian, on dessinait beaucoup de maisons, c'était beaucoup du résidentiel. Et donc c'est difficile de tout d'un coup de s'extraire d'un langage. Et tout d'un coup, de partir aussi loin, de faire ce projet aux États-Unis, un hôtel qui s'appelait le Townhouse, et qui était un hôtel qui était pas trop cher, mais avec une volonté de c'était assez moderne. C'était un des premiers hôtels pas trop cher, mais vraiment intéressant. Et c'est un des premiers boutique hôtels, ce qu'on appelle des boutique hôtels. Moi, j'aime pas tellement cette dénomination, mais
pourquoi?
Parce que boutique hôtel, il y a le nom boutique, il y a pas forcément de boutique dans ces hôtels-là, mais c'est des hôtels qui je sais pas, je crois qu'il y avait une quarantaine de chambres, petite taille, et très accessible en réalité, mais avec une vraie esthétique, une vraie façon de une nouvelle façon d'aborder l'hôtellerie à l'époque. Et cet hôtel-là a eu beaucoup de succès.
Mais c'est quand même dingue d'avoir accès à des projets aussi tôt dans une carrière. T'avais un réseau de gens fortunés finalement autour de toi ?
Non, pas du tout. Et d'ailleurs, Jonathan Moore, qui m'a commandé cet hôtel, n'est pas du tout fortuné. C'était quelqu'un que j'avais rencontré par hasard à Londres et qui m'a appelé tout de suite après et il m'a dit, écoute, est-ce que tu voudrais faire cet hôtel? Il savait que j'avais travaillé chez Christian Lieg et il m'a dit, écoute, c'était un restaurateur, il se lançait dans l'hôtellerie, ce qui se faisait beaucoup à l'époque, et il m'a dit, écoute, viens, on va faire ce projet ensemble. Et donc c'était marrant parce qu'il fallait réinventer plein de choses, de nouvelles choses, de nouvelles façons de fonctionner. Et je me souviens, j'avais dans cet hôtel, il y avait une toit terrasse qu'on n'utilise jamais, on n'utilise pas beaucoup les toits terrasses aux États-Unis à l'époque, en tous les cas à Miami. Et c'est une propriété qui n'avait pas du tout de terrain, donc pas la possibilité d'avoir une piscine. Et donc j'ai proposé qu'on réaménage toute la terrasse en utilisant des waterbeds qui sont pas du tout utilisés de cette façon-là aux États-Unis. Et donc j'avais eu envie d'avoir donc j'avais mis tous ces matelas les uns à côté des autres en faisant deux immenses ailes sur la terrasse, recouvert de rouge avec des parasols rouges, et c'était une couleur très forte. J'ai commencé à utiliser la couleur sur ce projet-là. Je me suis rendu compte de la force de la couleur. C'était un des premiers projets où je mettais autant de couleurs. Et tout d'un coup, cette terrasse est devenue the place to be. C'était tout au début de Miami Art Basel aussi. Et tout le monde arrivait sur cette terrasse pensant que c'était des matelas normaux, et finalement il y avait cette cette sensation de l'eau sans qu'il y ait de piscine ni quoi que ce soit. Et c'était vraiment assez étonnant.
Génial. Tout à l'heure, tu parlais de, enfin, tu disais, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à mon esthétique, à mon, en tout cas, à mes codes. Comment tu t'y es pris pour dessiner ta palette, enfin, pour écrire ta palette?
Mais en fait, je me suis rendu compte assez rapidement. D'abord, la couleur, je l'utilise toujours de façon contextuelle. Donc, à Miami, par exemple, quand j'y suis allée, je me suis dit, ah, cette ville, c'est, j'ai pensé que c'était Sea, Sex and Sun. Et donc, j'ai construit une palette autour de ça. Donc, j'ai utilisé un bleu pâle, un baby blue, couleur sable qui était le beige. Et puis, pour moi, tout ce qui était sexe, c'était plutôt cette couleur rouge et qui marche très bien avec la lumière, qui marche très bien au soleil. Et donc, en faisant ça, en travaillant sur cette gamme de couleurs, je me suis rendu compte aussi que ça identifie un lieu très fortement. Et j'aime bien aussi que les gens puissent se souvenir de ces lieux. C'est lié à une couleur. Quand ils prennent des photos, ils voient un fond bleu, un fond rouge, un fond rose, et ils se disent, tiens, j'étais dans cet endroit. Donc on est créateur de mémoire, de souvenirs, et la couleur aide beaucoup à ça.
Très bien. Tu parles des lieux. Quels sont les lieux qui t'ont marqué dans ton enfance, qui ont laissé une empreinte sur toi?
Les lieux de mon enfance, c'est aux États-Unis certainement. Je dis souvent que ces premières années passées aux États-Unis, c'est ma vie était en Technicolor. Parce que j'ai le souvenir d'avoir vu énormément de cartoons et des couleurs saturées, des couleurs vives et saturées. Les États-Unis pour moi c'était très coloré, une très belle lumière aussi. Donc ça pour moi ça a marqué vraiment mon enfance, toutes ces couleurs très fortes. Et puis ma vie tout d'un coup a basculé quand on a déménagé en Allemagne. Parce que ma vie passait du technicolor au noir et blanc, ou plutôt au gris. Et tout d'un coup, je pense que c'était un choc émotionnel de déménager comme ça. Parce que c'est l'abandon de tout ce qu'on, de son monde, de ses amis, de tout ce qui constituait mon paysage. Et tout d'un coup, je me retrouve dans un territoire où le ciel est bas, les maisons sont grises. Je plus du tout la même le même paysage, et je pense que ça a créé un manque terrible pour moi. Ma famille, au bout d'un an, on a déménagé dans le sud de la France, et là je redécouvre un petit peu la lumière dans le sud de la France. Évidemment toute la Méditerranée qui était fabuleuse,
et la couleur et la lumière dingue. Ce que j'aime bien faire dans ce podcast, c'est reprendre la carrière de la personnalité et essayer d'aller extraire les milestones, comme on dit, ou les tipping points d'une carrière. Donc toi, très rapidement, en fait, ça prend vite ton histoire de ton métier. Tout de suite, t'es sous les feux de la rampe. T'as tout de suite une notoriété importante.
Je sais pas si c'est une notoriété importante, mais en tous les cas, tout de suite, j'ai une reconnaissance aux États-Unis. Après cet hôtel
à Miami,
je devais faire un grand hôtel pour Jan Schrager. Jan Schrager, qui est quand même le roi de l'hôtellerie aux États-Unis, on pouvait pas imaginer avoir un client. J'étais vraiment incroyable de travailler avec lui. Je le rappelle pour les auditeurs, Jan Schrager avait travaillé avec André Putman pour le Morgan's Hotel, et puis il faisait tous ses hôtels avec Philippe Stark, donc le premier étant le Royalton, puis le Paramount, puis le Delano, et puis ensuite une série d'hôtels. Et donc il avait entendu parler de moi, je pense qu'il avait envie de travailler avec quelqu'un d'autre, et il me propose de faire un hôtel de 400 chambres à New York, à côté du Lincoln Center, Ça s'appelait le Empire Hotel. Et donc, j'ai commencé à travailler sur ça. Et c'est vraiment... Et moi, j'étais très... j'avais une certaine humilité. Je ne savais pas si j'étais capable de faire ça, de toutes les façons. Donc, il m'a dit, réfléchis, reviens vers moi. Puis, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, oui, je vais essayer. Et puis, donc, j'ai commencé à travailler sur des chambres témoins. C'est tout un processus intéressant, d'ailleurs, de travailler avec quelqu'un comme lui, dans son...
De ce niveau,
oui, à ce niveau-là, j'ai beaucoup appris. Et puis, il y a eu septembre 2001, ce qui fait que ce projet a complètement disparu de la circulation. Je crois qu'il a vendu la propriété assez rapidement. Et puis, en fait, ça a mis une sorte de terme à cette carrière internationale, puisque après septembre 2001, je crois que chacun a commencé à rester chez soi.
À se refermer, ouais.
Ouais, tout s'est un peu refermé.
Qu'est-ce que tu retiens de cette collaboration de cet homme, ouais, qui a fait tellement de choses dans l'hospitality? C'est quoi les key learnings de ce que tu as appris avec lui?
Ben, j'ai appris énormément de choses, non seulement dans la façon de penser différemment l'hôtellerie, de penser l'hôtellerie comme un entertainment, de penser l'hôtellerie ouais, comme ça, comme un vrai entertainment. Donc ça veut dire faire du lobby à un endroit de vie, non seulement pour les gens qui passent à l'hôtel, mais aussi pour la ville. Donc c'était l'hôtellerie ouverte au monde, c'était un endroit fun, c'était la grande époque de l'effet wow. Comment est-ce qu'on peut surprendre, comment on peut impressionner, et ça, c'était très nouveau. Et puis, je dois dire, dans sa méthodologie de travail aussi, c'était vraiment quelque chose de rodé, incroyable. Donc, c'est toujours construire des chambres prototypes, les tester, voir ce qu'on peut améliorer. Il y a tout un professionnalisme incroyable.
C'est quoi ta méthode, toi?
Ma méthode pour construire des projets?
Ouais. N'importe quel projet, n'importe quelle échelle. C'était toujours la même méthode d'ailleurs, parce que ça change en fonction des projets.
Obligatoirement, ça change, mais en tous les cas, pour les espaces, j'essaye de me servir toujours du contexte. Donc, peu importe où on se trouve, il y a toujours un contexte. Donc, on est dans une ville, on est dans un pays, on est dans un quartier. On est dans un immeuble qui a souvent, c'est surtout de la rénovation, de les réaménagements que je fais. Donc, il y a un bâtiment qui a une histoire, qui a une structure. Donc, on se sert de ça. Moi, je me sers beaucoup, beaucoup de ça. Et puis, évidemment, d'une conversation que j'ai avec un client. Parce que ça aussi, c'est toujours, on travaille toujours en réaction, en conversation avec un client. C'est pas du tout, moi je viens pas imposer ce que j'ai besoin de faire ou ce que j'ai envie de faire. C'est le résultat est toujours une conversation qu'on a avec quelqu'un. Donc j'essaye de travailler comme une sorte de photographe, parce que c'est toujours, en tous les cas pour les maisons que je fais, pour les tout ce qui est privé, j'interviens comme un photographe, c'est-à-dire que je pense que le résultat doit toujours ressembler à la personne dont on fait le portrait. Donc moi je l'éclaire d'une certaine façon, je prends j'ai des points de vue, puis il y a toute la fonctionnalité aussi qui vient avec. Donc c'est un mélange de d'informations que je prends, mais je crois que si je réfléchis un peu plus, je crois que je commence toujours à travailler en plan dans un espace. C'est une façon pour moi d'apprivoiser l'espace, je réfléchis à des options différentes et j'en discute. D'ailleurs, je viens jamais avec une seule option en disant voilà, c'est ça qu'on va faire. Je dessine plusieurs options en plan et puis et c'est toujours à l'issue d'une conversation qu'on trouve la bonne solution, parce que la fonction permet de proposer différentes façons de vivre en réalité.
Bien sûr.
C'est des solutions, pas jamais qu'une seule solution. Et puis, je crois que j'essaye aussi de réfléchir à ce que moi je peux apporter personnellement à un projet. Et donc j'aime bien l'idée d'essayer de définir une question à laquelle je voudrais répondre. Et définir cette question-là, c'est peut-être la partie la plus difficile du projet.
Tu peux nous donner des exemples ?
Oui, alors dernièrement, j'ai fait un... On m'a invité, la NGV, qui est la National Gallery of Victoria à Melbourne, m'a invité à faire la scénographie d'une exposition pour Pierre Bonnard. Et avec l'idée que ce serait une conversation entre moi et Pierre Bonnard, ce qui est très inhabituel, une conversation entre l'art et le design. Donc c'est vraiment une demande très particulière qui se fait, j'ai jamais vu ça dans aucun musée. Et quand j'ai été invitée à mettre en scène le travail de Pierre Bonnard, je me suis quand même posé la question comment est-ce que Pierre Bonnard pourrait être perçu en Australie par une audience beaucoup plus jeune qui n'est pas forcément familier avec l'œuvre de Bonnard. Et surtout, ce musée, c'est une autre échelle que les musées français. C'est quand même des surfaces de 1000 mètres carrés d'exposition avec 6 mètres sous hauteur. Donc, je me suis vraiment posé la question de savoir comment est-ce que on pouvait rendre Pierre Bonnard plus accessible, comment est-ce qu'on pouvait le faire découvrir à une audience plus jeune et peut-être moins familière de son travail. Et l'idée nous est venue de finalement rendre ces espaces plus une échelle, donner une échelle plus domestique à ces espaces. Donc on a essayé de faire une expérience immersive. On a l'impression de déambuler dans un intérieur. On a utilisé en allant chercher les papiers peints dans les tableaux de Pierre Bonnard pour les retravailler et créer des fonds. Et tout ça pour redonner une échelle vraiment domestique. Parce que Pierre Bonnard, lui, son travail est très intime. Il nous invite chez lui, il nous invite à sa table, il nous invite dans la salle de bain, on aperçoit sa femme Marthe. Donc il y a vraiment un rapport très intime au travail de Bonnard. Et c'était très important pour nous de recréer cette intimité. Donc on a en réalité recomposé l'essence d'une maison, l'idée de la domesticité. Et Pierre Bonnard vient s'inscrire dans un univers qui est un peu le sien, puisque tous les papiers peints ont été créés à partir de ses papiers peints de chez lui, mais un peu le mien, puisque j'ai retravaillé sur l'échelle de ses papiers peints et je suis venue ponctuer ces espaces de mon mobilier. Si bien que le visiteur déambule dans un espace avec des fenêtres où on aperçoit toujours autre chose. Il peut s'asseoir sur un canapé pour admirer un tableau, s'asseoir à une table et vivre cette expérience d'une façon complètement immersive.
Donc, c'était un franc succès.
Ça a été un très grand succès. Non seulement un succès réel, puisque c'est une exposition qui a été extrêmement vue, mais aussi un vrai succès d'image, parce que l'exposition est extrêmement photogénique également.
Bien sûr. Et c'est donc ça le futur, non, des expositions, de comment est-ce qu'on ramène les gens dans les musées?
Ouais, je pense que c'est un vrai sujet de rendre... d'être inclusif quand on fait quelque chose, qu'on s'adresse à... Moi j'adore l'idée que quelqu'un vienne découvrir, j'adore l'idée qu'un connaisseur puisse venir admirer un des plus beaux tableaux de Bonnard, parce que l'exposition est d'une qualité incroyable, c'était toute la collection du musée d'Orsay, Mais j'adore que quelqu'un qui ne connaît pas Bonnard du tout puisse découvrir son univers et puisse le comprendre, puisse inspirer des jeunes peintres, qui puissent inspirer des photographes, j'en sais rien. C'est très important, c'est un vrai sujet aujourd'hui d'être assez inclusif avec ça, parce que sinon il n'y aura plus personne dans les musées d'ici 20 ans, je crois.
Et en même temps, c'est rendre accessible, inclusif, sans rabaisser le niveau. Il y a ce côté...
Ouais, c'est... Je crois que c'était un pari de faire ça, parce que je savais que je m'exposais
à la critique.
À la critique. Mais je dois dire que les critiques ont été bonnes. Et j'ai même un critique d'art qui est venu me voir et m'a dit que, tu sais, cette exposition devait avoir lieu déjà en 2021. Et puis elle a été repoussée à cause du Covid. Et il m'avait interviewé en 2021 et il m'a dit, je l'ai revu là récemment, il m'a dit, tu sais, quand je t'ai interviewé en 2021, je croyais pas à ton nez, j'étais très sceptique. Il m'a dit, je dois dire que ça marche très bien, ça marche merveilleusement bien, parce que c'est, il y a des résonances, et je veux dire que rien n'est gratuit, puisque une fois de plus, j'ai été hyper contextuelle dans la mesure où je me suis servi du travail de Bonnard pour le réexposer. Il faut savoir qu'à cette époque-là, dans toutes les maisons étaient couvertes de papier peint. Donc c'est comme si je remettais Bonnard dans son propre univers. Et en ça, ça marche très bien. L'exemple du sketch, par exemple, à Londres. Mourad Mazouz, qui est le propriétaire, a ce lieu à Londres, une salle de restaurant parmi d'autres, parce que c'est un immeuble en réalité où il a 3-4 venues. Et la galerie du sketch, c'est un restaurant qui est amené à être redécoré, où il invite des artistes à prendre possession de ce lieu tous les 2-3 ans. Il avait invité David Shrigley à prendre possession de cette salle. Et normalement, c'est l'artiste qui prend l'entité de l'espace et devait le traiter entièrement. Et Mourad m'appelle en me disant, tu sais, David, il veut faire que des dessins, il veut dessiner que la vaisselle, et en fait, ce serait bien que tu fasses le reste. Et moi, je vais dans cet espace, je vois c'est une sorte de grand cube, et je me suis dit, comment est-ce que je peux apporter quelque chose de plus, de façon à, premièrement, rendre cet endroit vraiment comme une entité, une entité parmi d'autres, puisqu'il y avait plein d'autres salles qui étaient très fortes, et comment est-ce que je peux aussi exister par rapport à un artiste, comment est-ce que ça peut devenir une conversation. Et donc l'idée m'est venue très rapidement de peindre tout cet espace en rose, rose bonbon, enfin rose, l'idée qu'on se fait du rose, et en fait de faire coexister ces deux, c'était comme une réponse à David Shrigley, parce que son travail est en noir et blanc, ses dessins sont assez humoristiques et provocateurs, et pour moi c'était assez intéressant d'avoir ce contraste entre cette pièce qui était extrêmement impressionnante, sans lumière du jour, une multitude de dessins qui étaient accrochés d'une façon un peu radicale et alignée comme ça, assez stricte, et toute cette espèce d'ambiance rose que je pouvais apporter et traiter de façon aussi radicale, mais comme un manifeste en fait.
Très bien. Comment est-ce qu'on... Parce que, en tout cas, l'idée que je me fais de ton travail a une dimension assez radicale, où tu parles du sketch, c'est tout rose. Tu parles de cet hôtel à Miami, il y a ce rouge pétard qui est très, très important. Quand t'as un client, comment tu fais en sorte de te mettre au service du client sans t'imposer, tout en posant ta signature quand même? Parce que quand même, quand on voit un travail, c'est une de tes forces, c'est que c'est du India Madhavi. Comment est-ce qu'on fait pour trouver ce juste équilibre, en fait?
Bon, déjà, je pense que je me répète jamais. Justement parce que chaque projet est très différent, parce que c'est les projets, les solutions que je propose sont tellement contextuelles, et donc ces projets sont le résultat d'une conversation, et donc chaque client est différent, chaque lieu est différent, et donc c'est au fur et à mesure qu'on construit un projet ensemble. Je pense que si on vient me voir, c'est aussi pour avoir une réponse forte. Une réponse forte, mais en tous les cas, aujourd'hui, oui, à l'époque, je n'en sais rien. C'est vrai que, je sais pas, je dis ça, mais je réfléchis en même temps. Le sketch, par exemple, c'était les débuts d'Instagram. Moi, j'ai toujours été très sensible à l'image. Mais pas seulement, parce que mes projets sont très construits. Comme je dis, j'ai commencé souvent à les travailler en plan, donc c'est très important qu'il y ait une belle circulation, qu'il soit lisible, qu'il soit fonctionnel. Mais je suis sensible aussi à l'image que peuvent produire ces projets. Je pense que le fait d'avoir été au cinéma d'avoir vu 3 films par jour, j'ai un œil qui fonctionne un peu comme une caméra. Je sais ce qui est photogénique. J'ai cette force-là. Donc, j'ai toujours attribué beaucoup d'importance à l'image que peut produire un projet.
Qu'est-ce qui fait une bonne image ?
Une bonne image, c'est quelque chose de lisible. De pouvoir avoir un premier plan, un deuxième plan, un troisième plan. Mais lisible. Ça peut être complexe, mais aussi quand c'est simple à lire, c'est ouais, d'avoir une espèce de lisibilité, je pense. Quelque chose aussi des éléments graphiques qui soient lisibles. Mmh. Ou peut-être une vibration aussi. Donc je dois dire que tous les projets que j'ai pu faire, que ce soit Townhouse, mon projet au Mexique, que ce soit même le bar que j'ai fait pour le Connaught à Londres, ou le sketch. Maintenant, je rappelle quelques projets que je viens de faire. La Villa Médicis, ou l'exposition que je viens de faire pour Pierre Bonnard à la NGV en Australie. Je pense que ce sont des projets qui ont une force visuelle et qui font que on a envie de les voir, on a envie de... voilà, il y a un côté
Instagrammable.
Instagrammable, mais pas seulement, parce que je pense qu'il y a une richesse aussi.
Bien sûr, profondeur, ouais.
Profondeur, ouais.
Très bien. Pour revenir sur ton parcours et les grands milestones, tu nous parlais tout à l'heure de ce projet avorté avec Jan Schreger. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Quelles ont été les grandes étapes de ta carrière? Parce qu'à cette époque-là, t'es super jeune, t'as même pas 30 ans.
Non, je suis 35 ans.
D'accord. Okay.
Ouais, 35, 36 ans. J'ai commencé à me mettre à mon compte à 35 ans.
D'accord.
Donc après, je reviens. Enfin, j'étais en France. De toute façon, j'ai toujours été basée ici. J'ai été contactée par Thierry Coste.
Génial.
Ah,
ok.
J'avais fait un autre projet aux États-Unis qui avait justement attiré l'œil de Thierry Coste. C'était une boîte de nuit dans le Meat Market qui oui. s'appelait APT. Et c'est un projet amusant parce que Jonathan Moore, qui m'avait contacté pour faire l'hôtel Townhouse, il me poursuivait pour que je fasse une boîte de nuit. Et moi, je dois dire qu'à l'époque, je me projetais pas tellement dans des sorties de boîtes de nuit, etc. Parce que j'avais un bébé de 2 ans, 1 an. On est à milieu de vouloir sortir le
c'est
soir,
clair.
Etc.
Donc, je suis en plein dedans et c'est clair.
Voilà. Donc on a un peu une autre vie. Et puis il insistait quand même. Fou. Et donc il me dit, viens, on va passer 2 jours à New York, on va faire toutes les sorties, on va aller dans toutes les boîtes, comme ça tu vas voir tout ce qui se passe à New York et peut-être t'auras une idée, etc. Et finalement je lui dis, écoute, oui, je veux bien le faire, mais moi, si j'avais une boîte de nuit maintenant, j'aimerais bien qu'il y ait une cuisine, que ce soit comme une maison, avec un lit, et comme ça je pourrais me reposer, avec une bibliothèque, et je voudrais vraiment que ce soit comme une maison. Et si tu veux, on l'appelle APT, short for apartment. Elle m'a dit, ah ouais, j'adore l'idée, vas-y, on fait ça. Donc on a fait ça, et j'ai construit l'appartement autour d'un personnage imaginaire que j'ai appelé Bernard, qui était un Français qui vivait à New York. Et donc j'ai construit comme un appartement du Upper East Side, down in the meat market. Et c'était très rigolo, c'était vraiment un nouveau concept pour New York. Il y a une programmation musicale incroyable. Et il y a eu les quelques bonnes années de APT. Et Thierry Coste avait vu ça à New York. Il m'a dit, c'est l'endroit que j'ai préféré à New York, c'est vraiment génial. Est-ce que tu veux bien... je vais ouvrir un restaurant à Paris, à Saint-Germain, rue de Bussy. Est-ce que tu veux bien t'en occuper? Donc j'ai commencé à travailler avec Thierry Coste pendant un certain temps. C'est le groupe Beaumarly, et donc j'ai fini par faire le Germain, le Tout Mieux, le Café Français, voilà, donc trois lieux à Paris, et c'était à peu près les seuls lieux que j'ai fait à Paris en réalité.
Ce qui est intéressant dans ton métier, c'est quand même finalement qu'un projet, on appelle un autre, parce que chaque nouveau projet a une couverture médiatique, il est vu par des gens, il y a souvent une rencontre avec le succès, parce que j'ai l'impression que c'est gage de succès, non, quand on signe un projet avec India Madhavi, non?
J'espère, mais surtout pour moi, ce qui est important, c'est que c'est que les projets que je fais soient bien reçus par le public, parce que c'est vrai qu'on porte un projet pendant un an ou voire deux, et après on le laisse vivre sa propre vie, et c'est très important que le public aime ce projet, et ça c'est très important pour moi.
Ils les aiment tous?
Oui, je pense que j'ai eu des projets qui ont plus ou moins, de façon générale, oui, je pense que la plupart des projets ont eu un vrai succès. Puis quand il y a eu des projets qui ont vieilli, qui ont été refaits, qui ont été peut-être mal entretenus, et puis au final ça se dégrade un peu. Et ça c'est la difficulté, c'est de pouvoir garder un projet aussi dans le temps, qui soit
qui vieillit pas trop mal, quoi.
Ouais, qui vieillit pas trop mal.
Et comment tu t'assures de ça?
C'est compliqué parce que ça dépend plus de moi en réalité.
Bah oui.
Donc ça dépend du client. Alors j'ai des projets que j'arrive à maintenir parce que j'y retourne, donc je dis non, il faut aménager comme ça. Enfin, je remets les choses pas en ordre, mais en tous les cas je les laisse pas se déliter. Mais dans les restaurants par exemple, c'est très très difficile.
C'est très difficile parce que, pour avoir été un peu restaurateur, souvent les clients s'approprient le truc et bougent les tables, etc.
Et, exactement.
Et ça devient ingérable.
Ouais, ingérable. Mais en même temps, c'est pour ça que j'aime bien l'idée de faire des projets qui ont une certaine force, parce qu'ils peuvent absorber justement tous ces petits défauts.
Ouais.
Et donc, après, on lit plus... on le voit, moi évidemment je vois les défauts tout de suite, mais je pense que la plupart des gens ne le vivent pas comme ça. Donc c'est si on arrive à faire des choses suffisamment fortes, et c'est pour ça que la couleur est importante aussi pour moi, parce que c'est toujours quelque chose qu'on lit d'emblée, et après les choses viennent se raccrocher. Donc il faut toujours qu'il y ait une sorte de colonne vertébrale, et la couleur a souvent servi de colonne vertébrale à mes projets.
Qu'est-ce qui fait que tes projets font souvent l'unanimité d'après toi?
Parce que ils sont très lisibles, mes projets sont très lisibles, ils sont joyeux, je pense qu'ils sont pas prétentieux non plus, et une sorte de simplicité, et je pense que il y a aussi une sorte d'équilibre entre le fait d'être dans un endroit identifié, identifiable, un endroit qui soit agréable, mais où on peut aussi être soi-même. Donc il y a non seulement un confort physique et un confort visuel, mais il y a aussi un confort émotionnel. Et je pense que ça, c'est très important.
C'est rassurant, c'est quoi?
C'est, oui, il y a un côté réconfortant, rassurant. Voilà, il y a des petites intentions, il y a des... il y a parfois un peu d'humour aussi. Voilà, je pense que le sketch, par exemple, on a l'impression de s'asseoir sur des gâteaux.
Des petits boudoirs,
ouais. Ouais, des petits boudoirs. Le rose, et ça, je le savais pas quand je l'imaginais pas quand j'ai utilisé ce rose. Ça donne une lumière formidable. On est tous
beaux.
Très beau. On a l'impression d'avoir passé juste une journée au soleil, donc on est tous un peu bronzés, comme ça, ça donne une très jolie lumière sur le visage. Et donc il y a vraiment un confort, un bien-être. Enfin, je pense un bien-être, j'aime pas trop ce mot, mais ouais, je dirais qu'il y a un confort émotionnel aussi. Et Frame Magazine, qui m'a donné un award pour l'ensemble de ma carrière. Ils sont venus vers moi et m'ont dit oui, on te donnait ce prix parce que on trouve que toi tu as créé ce mouvement human centric. Alors human centric, ça veut dire que finalement je crée des lieux pour les gens. Je pense pas à moi, à l'image. Je crée pas forcément une chose pour moi-même. Je pense à ce que je peux apporter aux utilisateurs, aux clients, aux personnes qui peuvent venir voir un lieu et aussi comment, en même temps, pouvoir créer une identité. Comment est-ce qu'on peut se souvenir de ce lieu? Comment est-ce que ce lieu peut vivre sa propre vie sans être relié à moi?
De quel lieu tu es le plus fier?
Ça, c'est une question compliquée parce que il y a plein de lieux dont je vais pas dire fière, mais que j'adore. Je pense à un projet, par exemple, que j'ai fait en Égypte, dans le désert, où j'ai travaillé avec une architecture complètement vernaculaire et que j'ai essayé de moderniser. Ce sont des projets, j'ai commencé à travailler dans le désert avec Mounir Nehamatalla. J'ai commencé il y a peut-être une quinzaine d'années et c'est des projets que j'ai suivis pendant assez longtemps. Et ça m'a donné beaucoup de joie. Travailler avec Maya Hoffman à Arles, ça fait une quinzaine d'années aussi que je travaille avec elle. L'hôtel du cloître à Arles, par exemple, c'est un projet que j'ai adoré faire. Le sketch, évidemment, parce que je pense que le sketch a eu un écho sur le monde comme aucun projet, parce que c'est une façon, ça a été tellement instagrammé qu'on m'associe souvent à ce projet-là. On m'associe aussi à la couleur rose, alors que
c'est le seul endroit où tu l'as utilisé? Non, sur d'autres tu l'as utilisé aussi, mais bon.
Oui, j'ai utilisé, j'ai toujours aimé le rose, j'ai toujours voulu travailler avec le rose. Le truc, c'était une couleur qui était understated, et qu'on a toujours relié le rose à ce côté cucu, mais moi je trouve que le rose, c'est une vraie couleur joyeuse et qui pouvait avoir sa propre place, on pouvait le lire autrement que à la layette des petites filles.
Bien sûr, très bien. Juste pour revenir sur ce côté milestones, on s'est arrêté à Apartment. Il s'est passé quoi ensuite? Quels ont été?
Non, alors après j'ai travaillé pour Thierry Coste.
Voilà, Thierry Coste.
Le groupe Beaumarly aujourd'hui.
Ouais.
Et j'ai travaillé aussi pas mal avec Maya Hoffman à Arles. Et puis, donc il y a eu Sketch, Il y a eu, après Sketch, j'ai eu beaucoup de demandes dans cette espèce de, d'univers. Donc, j'ai fait des concepts pour les boutiques Red Valentino. J'ai travaillé pour La Durée également.
Génial. Et d'ailleurs, c'est à la fois génial et sans doute frustrant de dire, les gens, ils doivent dire, je veux ça, non? Je veux la même chose.
En fait, ils reconnaissent, par exemple, La Durée. Il y a, c'est vrai, dans le paysage de La Durée, on a tous en tête les couleurs des macarons qui sont des couleurs pastel. Alors, comment on aborde un projet pour qu'il soit un peu plus personnel, c'est de réfléchir à ce qu'est La Durée. La Durée, pour moi, c'était... ils ont une histoire avec Marie-Antoinette. Mmh. Donc, je me suis basée là-dessus en disant, Marie-Antoinette, c'est aussi Versailles. Et Versailles, c'est un jardin. Et pourquoi est-ce que La Durée serait pas un jardin de sucrerie? Mmh. Voilà. Et donc, à partir de là, on construit ce que c'est, ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut transmettre l'idée du jardin? Comment est-ce qu'on peut, donc on peut travailler sur toute l'ambiance d'un jardin d'hiver, c'est ce que j'ai fait. Et puis Marie-Antoinette voyage, elle est à Genève, mais elle va à Los Angeles et puis elle va à Tokyo. Mmh. Et en fait, comment est-ce qu'on peut repenser son voyage à travers tous ces lieux?
C'est intéressant, tu reviens souvent sur cette idée qu'on se fait de la couleur d'un lieu, d'une capitale, etc. C'est comment tu synthétises ça? Comment tu essayes de capter l'idée d'une couleur, l'idée d'une ville, l'idée d'un mot?
Je me souviens par exemple au Mexique quand j'ai fait Condesa, parce que ça aussi c'est un projet important.
Assez iconique, ouais.
Ouais. Je me souviens que on associe souvent le Mexique est la couleur de Luis Barragán, donc c'est rose fuchsia, ce jaune très vif, toutes les couleurs, toute sa palette de couleurs à lui qui est d'ailleurs formidable. Mais moi je travaille dans un contexte très très différent puisque c'était dans un quartier qui s'appelle Condesa Roma, et ce bâtiment qui datait des années 30 n'avait rien de Luis Barragán. Et je me rappelle, je me promenais dans ces, j'ai fait beaucoup de photos aussi, je me suis promenée beaucoup et j'ai constitué une gamme de couleurs à partir de ce que j'avais vu dans ce quartier. Et j'ai voulu reproduire cette gamme de couleurs dans ce projet, tout simplement. Et en fait, je sais que mes clients étaient pas très confortables avec justement ces couleurs tellement fortes. Et ils m'ont dit non, finalement, on voudrait blanc, ce sera beaucoup plus. Voilà, ils avaient un inconfort avec la couleur parce que ça peut rendre les gens sont inconfortables avec la couleur, non? Et 3 semaines avant l'ouverture, je me rappelle de ce chantier qui était tout était peint en blanc et ça manquait de personnalité, ça manquait de d'assises en réalité. Et ils m'ont dit non, mais fais quelque chose. Et alors en une nuit, j'ai fait peindre tout le rez-de-chaussée en ce bleu turquoise, qui était une couleur que j'avais prise du quartier juste à côté. Et tout d'un coup, ça a changé toute la dynamique de ce projet. D'abord, c'est devenu la signature de ce projet, c'est-à-dire qu'on voyait ce bleu turquoise, traiter la couleur avec autant de force et de pouvoir se dire ok, je vais jusqu'au bout de façon assez radicale comme ça. Ça se faisait pas à l'époque, les gens avaient un peu peur de ça. Et c'est une couleur très, ce bleu turquoise c'est une couleur très populaire, elle était utilisée dans les petites échoppes. Tout d'un coup, ça lui donnait une autre signification aussi, ça lui donnait des armes de noblesse. Et je dois dire que ça a changé toute la dynamique du projet. Donc après, j'ai réajusté toute la gamme de couleurs en fonction de ce que j'avais fait. Et voilà, la couleur bleu turquoise est liée à ce projet complètement.
Quels sont tes autres, parce que la couleur, bon, on a compris que ça fait partie vraiment de l'ADN et de. C'est quoi d'ailleurs ton ADN, ton. Comment tu expliques ton univers, ton esthétique?
je l'explique pas. J'aime bien me définir comme polyglotte et polychrome. Voilà, c'est deux adjectifs que j'aime bien, qui je pense que mon univers est haut en couleurs et puis il est empreint de plein de cultures différentes, voilà, de cultures diverses, que j'arrive à convoquer, que j'arrive à saisir, et j'aime bien les mélanger comme je les ressens. Et voilà, je me définis un peu plus comme ça, je crois.
On a essayé de t'enfermer dans des boîtes à un moment donné ?
Ouais, certainement. On m'a défini que, en fait, on me définit souvent comme la reine de la couleur. Pourquoi pas ? C'est vrai que j'ai pas peur des couleurs. C'est vrai que que je les associe librement, que j'ose la couleur, et ça a toujours été une expression pour moi. Donc je suis capable de mélanger une palette incroyable de couleurs, d'une dizaine de couleurs ensemble sans que ça pose un problème. Je les vois comme des amis, ces couleurs. Donc plus il y en a, mieux c'est. Et plus ici il y en a peut-être moins que d'habitude, mais c'est, mon travail n'est pas que la couleur. Ça se limite pas à ça, parce que pour faire un projet qui soit, je veux dire, c'est vrai que un projet, c'est pas une image. Un projet, c'est avant tout un lieu qui est vécu. Donc, tout ce qui va en amont de la couleur, et la couleur, comme je la traite de façon contextuelle, fait partie du projet. Mais elle n'est pas là uniquement pour l'image. Elle est là pour raconter quelque chose d'autre. Et ça, c'est très important. C'est très important.
C'est toi qui, quand tu travailles sur tes projets, parce que tu as une équipe, c'est une trentaine de personnes, il me semble.
Non, j'ai une vingtaine de personnes. Ouais, je travaille vraiment, oui.
Et c'est toi qui signe tous les projets, forcément, mais qui fait tous les rendez-vous avec les clients. En tout cas, cette première discussion avec chacun des clients, etc., tu es toujours là.
Oui, je suis toujours là.
C'est hyper important.
Toujours là. Et en fait, mon équipe, parce que c'est vrai qu'on est une vingtaine, mais ça inclut aussi tout l'aspect d'édition de mobilier que je fais. Donc, il y a la moitié des personnes qui s'occupent de toutes ces éditions-là, de suivre la production, de travailler administratif qui est lié à ça. Et mon équipe, à moi, de création, ça représente on est à peu près une douzaine.
D'accord.
Et oui, je fais toujours les premiers rendez-vous parce que ça me paraît très important d'écouter et d'entendre ce que cherche un client quand il vient me voir. J'ai besoin de comprendre avec ses mots, ce qu'il vient chercher chez moi. Et cette écoute est très importante parce que ça va pouvoir me faire réagir. Et c'est comme ça qu'on commence une conversation.
Tu disais que tu travaillais en plan, tu commençais toujours par travailler en plan, mais est-ce que rapidement tu proposes des 3D, des 2D, des moodboards, tu travailles
oui,
comme ça ?
Oui, bien sûr, des moodboards, on en fait tous, parce que on essaye de transmettre à un client le plus d'images possible avant de tout dessiner, donc c'est une espèce de direction, mais c'est des moodboards qui peuvent... On se sert de moodboard, on trouve des images. Moi, je me sers beaucoup de mes propres images parce que j'en fais beaucoup. Donc, j'ai ma propre bibliothèque d'images.
Tu prends dans la rue, partout où tu vas.
Partout où je vais. Ça peut être un détail de, ça peut être des fragments, ça peut être une couleur, ça peut être un lieu, ça peut être un paysage, ça peut être plein de choses différentes. Donc, j'essaye de me servir le plus possible de mes propres images, mais ça peut être aussi d'un vêtement de mode, ça peut être aussi un gâteau, ça peut être un... Donc on raconte avec des images différentes et ces fragments d'images qui peuvent donner un tout. Le cinéma aussi, c'est des ambiances. Et à partir de là, c'est vrai qu'on... Quand il y a un plan, on peut commencer à réfléchir en plan, mais aussi ça vient de conversations avec mon équipe, forcément. Et puis, mais le plan, c'est le point de départ.
Et tu travailles vite ?
Ça dépend.
Ouais. Est-ce que c'est, enfin, est-ce que l'idée vient immédiatement ou est-ce que c'est un long processus d'itération?
Alors, c'est vraiment variable. Je pense que, par exemple, le sketch, c'est venu très vite parce que c'est venu, d'abord, j'avais très peu de temps. Donc, c'est venu comme un tout. Mmh. Et c'est là où on a 20 ans d'expérience qui arrive en 5 minutes avec une idée, une étincelle, en disant, bah, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Le projet que j'ai fait pour la Villa Médicis, c'est un projet qui a pris beaucoup plus de temps, de maturation, et aussi il y a des enjeux qui étaient un peu différents, parce que c'est une telle institution, c'est qu'il a fallu trouver la réponse juste. Mmh. Et ça, c'était pas facile de se demander, de se dire, ben, comment est-ce qu'on peut répondre justement à la Villa Médicis sans une réponse assez forte, mais en même temps humble, et ben, une certaine humilité.
Mmh. Et respectueuse de l'endroit.
Et hein. Respectueux, parce qu'il y a tant d'histoires. Mmh. On travaille avec Balthus, avec Richard Peduzzi, avec Jacopo Zucchi, avec voilà, il y a tellement d'histoires déjà à la villa que ouais, il fallait une certaine humilité, mais pas de timidité. Donc ça, c'était
intéressant. De l'humilité, mais pas de timidité. C'est là, c'est pareil. La frontière est très fine. Hein.
Ouais, c'était très fin. Enfin, c'est très fin dans cette réponse, exister, mais en même temps
être pas écrasé, ouais.
Mmh. Ouais, être respectueux.
Et quelle a été ta réponse?
Alors, d'abord, elle a été diverse parce que on a travaillé de façon assez acupuncturale, parce que on m'a demandé de réenchanter. Sam Stourzé m'a invité à réenchanter la Villa Médicis, mais en tous les cas l'étage noble, le piano nobile. Et dans cet étage, il y a plusieurs fonctions. Donc il y a les salles les chambres qui se visitent, qui sont en enfilade et qui reçoivent du public. Et il y a deux pièces qui sont tout à fait historiques. On est juste intervenu avec du mobilier à bouger les choses qui existaient déjà, donc avec un grand respect de l'histoire. On a changé certaines on a recouvert certains meubles, retapissé certains meubles. Et puis il y a une des salles, c'était un peu répétitif parce que c'est trois salles en enfilade et il y avait trois chambres. Et une des chambres, la chambre du cardinal Ricci, on a enlevé tout le mobilier, on a placé un grand tapis qui vient répondre au plafond, un plafond peint de Jacopo Zucchi, très fort, et on a mis un grand tapis fait avec Aubusson, qui est vraiment le reflet du jardin qu'on voit par la fenêtre. Ça, c'était très beau. Ça marche très bien dans c'est tout d'un coup une pièce assez contemporaine avec des couleurs fortes dans cette enfilade de pièces. Et puis il y a d'autres chambres qui sont utilisées pour des invités de la villa, des invités du monde de la culture ou qui se louent également. Et là, on s'est posé la question, et ce sont des chambres incroyables parce que elles font 70 mètres carrés, 5 mètres sous plafond, elles sont recouvertes des patines de Balthus avec des frises de Jacopo Zucchi, donc c'est vraiment très étonnant. Et ces très grandes chambres ont des petites fenêtres, mais avec la plus belle vue du monde, puisque c'est une vue sur Rome, surplombant Rome, et Rome, pour moi, c'est une des plus belles villes du monde. Mmh. Voilà, et on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on fait dans ces chambres, et comment est-ce qu'on peut améliorer, en tous les cas, rendre cette expérience encore plus belle qu'elle n'était, parce que quoi qu'il en soit, même si le mobilier était un peu banal quand j'ai pris ce projet, c'était pas le mobilier n'avait rien de très intéressant. En tous les cas, il y avait du mobilier 17e italien qu'on a gardé, etc., et tout ce qui était pas génial on l'a retiré. Et nous, on s'est vraiment posé la question de comment est-ce qu'on pouvait augmenter cette expérience esthétique qu'est le qu'est séjourner à la villa. Et je me suis dit que finalement, ce serait magnifique, c'est de pouvoir se lever le matin avec une vue formidable sur Rome, pouvoir admirer cette vue. Et donc, on a commencé à travailler sur des lits qui sont très inspirés de la Renaissance, parce que c'est des lits sur plateforme qui sont rehaussés. Ça veut dire qu'on a un lit à quasiment 90 de haut et qui permet d'avoir une vue magnifique puisque les fenêtres sont très hautes. Et puis à partir de là, on a commencé à réfléchir qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on va pouvoir les traiter. Et donc il y avait pas mal de partenariats sur ce projet. Il y avait le Mobilier National qui nous a ouvert ses portes pour qu'on vienne choisir du mobilier. Mais il y avait un mécénat avec la Fondation Bettencourt-Schuller sur les métiers d'art. Donc on a travaillé sur avec beaucoup d'artisans français et italien sur le travail de la réalisation même de tout ce projet. Donc on a fait intervenir beaucoup de gens différents, mais on a essentiellement travaillé sur la marqueterie de bois, qui est une tradition française, une tradition italienne, et en travaillant sur des motifs géométriques qui reprennent ces espèces de fausses perspectives qu'on trouve un peu partout en Italie à cette période de la Renaissance. Voilà, et à partir de ça, les colorations, on les a traitées. Et donc, toute cette marqueterie vient de créer des vibrations qui apportent une lumière assez belle, avec ces fonds de balthus. Et donc, il y a une des chambres qui abritait le piano de Debussy. Donc, j'ai proposé qu'on renomme cette chambre la chambre Debussy. Et toutes les colorations que j'ai utilisées dans cette chambre sont des colorations qui sont dissonantes, un peu acides, comme ça, qui étaient un écho à la musique de Debussy, en réalité. Voilà. Donc il y a cette espèce de vibration, c'est pas des couleurs que j'aurais associées normalement, mais quand on les voit ensemble, on dit c'est un peu dissonant, et puis dans le tout, ça crée une harmonie. C'est intéressant.
Si tu mets du Debussy dans les oreilles, ça, c'est encore plus cohérent.
Exactement.
C'est qui tes héros? Tu as des héros?
Ouais, mais les héros de mon enfance, j'en ai pas mal. Bugs Bunny. les héros. Après, j'ai des héros du cinéma aussi. Aussi bien des réalisateurs que des personnages. Je peux parler de réalisateurs dont j'adore le métier, j'adore le travail. Je peux parler de Fellini, je peux parler de. Stanley Kubrick, je peux parler de Visconti, je peux parler de tous ces...
Pas de designer, pas d'architecte.
Si, je peux parler de pionnières comme Charlotte Perriand.
Tu l'as rencontrée?
Non, mais je connais sa fille, Pernette, qui habite au bout de la rue. La rue Lascaz abrite l'atelier de Charlotte Perriand. Et donc je croise Pernette et son mari Jacques à peu près deux fois par semaine. Pas tous les jours, mais il y a des périodes où je les croise très souvent. Ouais.
C'est marrant.
Ouais. Après, là, tu me poses la question, si tu peux avoir des... Je vais réfléchir après. Je dis, mais j'aurais dû dire ça.
Ouais.
C'est toujours le problème d'avoir l'immédiateté de ta...
Tu as conscience d'être une rôle modèle aussi, une héroïne pour beaucoup de gens, de jeunes designers ou de jeunes gens. Est-ce que tu as conscience de ta notoriété, t'es un personnage public?
Oh, je pense pas que je sois un personnage public à ce niveau-là. Je pense que je suis reconnue vraiment dans mon métier. Mais j'y pense pas. Je le suis peut-être, mais j'y pense pas. Enfin, en tous les cas, je me lève pas le matin en ouais. disant oh, ouais, je suis un personnage public. J'arrive à sortir dans la rue, aller faire mes courses sans que je sois reconnue, donc tout va bien. Mais en tous les cas, en parlant de modèle, j'espère que mon parcours peut inspirer, parce que notamment pour les femmes, je pense que c'est pas facile de. Quand j'ai commencé ce métier, c'était toute la chaîne était dirigée par des hommes. C'est-à-dire ton client était un homme, les avocats sont des hommes, les banquiers sont des hommes, toute la chaîne était très masculine. Et donc, en tant que femme, c'est vrai, pour se faire une place, pour essayer d'exister, ça m'a demandé sans doute beaucoup plus d'énergie que pour n'importe quel homme. Et même aujourd'hui, quand on va sur un chantier et on est précis, on est exigeant, on va dire qu'est-ce qu'elle est chiante celle-là. Mais alors que si un homme dit la même chose, on va dire ah non, il est précis, c'est ce qu'il veut, on respecte, voilà. Donc je me dis que oui, c'est un chemin. Je pense aussi à toutes les femmes qui viennent du Moyen-Orient. Sans doute plus difficile pour elles de faire des choix de carrière, de pouvoir les mener jusqu'au bout, de pouvoir avoir d'être à la fois avoir sa de réaliser un rêve, mais en même temps d'être une femme, d'avoir des enfants, de faire tout ça à la fois. Ouais, j'espère que ça peut inspirer, évidemment.
C'est quoi le projet que t'as pas encore fait que tu rêves de faire?
Sans doute un film.
Ça peut arriver?
Je sais pas, on sait jamais. Je pense que ce qui est compliqué, quand on est pris dans... En fait, il faut savoir que ce métier, c'est très chronophage, le métier que je fais. Donc c'est tout, surtout quand on le fait de façon précise, chaque projet, c'est un temps incroyable pour la production d'un projet. Donc on est pris dans beaucoup de petites choses qui sont très contraignantes et de chronophages. Et donc c'est compliqué de libérer du temps pour autre chose. Mais j'aimerais bien à un moment donné trouver un projet qui inclut la réalisation d'un film et pouvoir le faire moi-même. Ça me plairait beaucoup.
Ok. Tu édites aussi donc du mobilier. T'as fait ce choix d'être d'auto-édition ou tu te fais éditer par des maisons, par
non,
des
non.
Éditeurs?
Non, j'ai fait ce choix d'auto-édition. C'est venu par la force des choses, mais aussi parce que moi j'ai pas la formation d'un designer. Donc je me suis dit le plus simple c'était de m'auto-éditer pour plein de raisons, hein, parce que je m'auto-éditais pour des projets que je faisais. Donc toute l'édition que je fais c'est souvent ça. Ce sont des pièces de mobilier que j'ai dessinées pour des projets qui me paraissaient pouvoir avoir une autre vie que pour les projets pour lesquels je les avais dessinés. Donc toutes les pièces qui sont exposées dans mon showroom ont existé par rapport à un projet et cohabitent d'une certaine façon et sont souvent le départ d'une petite famille. Donc par exemple le Bishop, il a fait un bébé, il a fait des tables, mais j'ai jamais conçu jamais pensé au mobilier comme j'ai jamais dit tiens je vais dessiner un salon. Alors il y a un canapé puis un fauteuil puis une table basse qui va avec, jamais travaillé comme ça. Donc ce sont des pièces indépendantes comme ça qui cohabitent d'une façon plus ou moins heureuse. Il y a un trait commun et ils sont...
C'est quoi le trait commun?
Il y a une certaine rondeur, il y a un confort, il y a une... il y a une joie, je crois. Voilà, c'est joyeux. Et ce sont des pièces qui sont éditées à la commande, fabriquées en France. Parce que ça, c'est une chose importante pour moi. J'ai tout de suite commencé avec des ateliers de fabrication en France. C'est du français qui s'exporte, mais en tous les cas fabriqué en France et à la commande, parce que ça me permet d'avoir de répondre à la demande et de pas surproduire. C'est un aspect très important aussi de mon travail, de trouver les bons ateliers, les bons savoir-faire. Alors après, je fais des collaborations avec des manufactures, avec des ateliers, ou parfois avec certains éditeurs qui ont un savoir-faire très particulier. Par exemple, là, je viens de finir j'ai signé des chaises, la chaise Mickey pour Tonnet. Tonnet qui est une des seules maisons au monde à savoir courber le bois de cette façon-là. C'est étonnant. Donc ça m'a intéressé de travailler avec eux. J'ai travaillé, là on voit les émaux de Longwy. Que aussi c'est un savoir-faire très particulier sur le cloisonné. Et donc j'aime beaucoup pouvoir mettre en lumière des savoir-faire qui sont parfois oubliés, qui sont peut-être considérés comme désuets, et pouvoir leur donner une autre lecture.
Une nouvelle chance. Excellent. J'imagine qu'on te pose plein de fois tout le temps cette question, mais qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes auditeurs qui nous écoutent? Parce que ce que je te disais tout à l'heure en introduction, c'est que tout ça semble tellement organique et simple quand tu le racontes, et c'est souvent ce qui ressort quand même de beaucoup de personnalités que j'interviewe, mais ça paraît tellement simple, et en même temps c'est le travail d'une vie, tu vois, donc ça a été long et laborieux sans doute, mais qu'est-ce que tu conseilles à quand on te demande quand on te pose cette question?
Alors premièrement, travailler. Ok, les choses n'arrivent pas comme ça du jour au lendemain. Donc, le travail, ça fait vraiment partie d'une réussite, en tous les cas. Mais surtout, je pense que dans mon métier, moi, je me sers beaucoup de ma propre mémoire. Je me sers se servir de ce qu'on a vécu pour pouvoir traduire autre chose, de pouvoir être personnel. Je pense ça. Maintenant, je vais réfléchir encore à autre chose. Oui, et d'avoir la curiosité de voir, de bouger, de sortir de sa zone de confort, de pouvoir voir tout ce qu'on peut voir. Et à Paris, on est très gâtés quand même, non, tellement d'expositions, de pouvoir se mettre dans une position où on peut être inspiré.
Qu'est-ce qui t'excite aujourd'hui?
Qu'est-ce qui m'excite aujourd'hui? Moi, je suis très contente de... Ce qui peut m'exciter, c'est de voyager encore, même si je fais attention. Ça m'excite toujours d'aller découvrir des lieux que je connais pas. Ça, c'est une des choses qui m'excite le plus, d'avoir des expériences. L'autre jour, je suis allée voir un festival de cinéma qui s'appelle Microclimat, qui est à Venise, et qui est sur l'eau. Et donc, on se rend en barque sur le... pour aller sur cette plateforme pour regarder ce festival de films. Et donc, c'est cette expérience aussi d'accumuler des expériences comme ça, c'était vraiment magique. Donc ça m'excite. Je pense que c'est ça qui est important, c'est comment est-ce qu'on peut créer une expérience différente, une expérience spécifique, à rendre les choses inhabituelles. Aujourd'hui, je vais dire une banalité, on est dans un monde qui est de plus en plus anxiogène, non? Et donc les moments présents restent très importants. Donc si on arrive à rendre des moments présents très forts et particuliers qui vont susciter des émotions, je pense que ça c'est la chose la plus importante.
ça me fait penser à toute cette couleur là. Est-ce que dans une interview tu disais que tu étais quelqu'un de nostalgique un peu?
Ouais, j'ai une nostalgie de plein de choses. Nostalgie de mon enfance, j'ai la nostalgie de pays où j'ai pas vécu. J'ai la nostalgie, on a toujours en vieillissant, on a une espèce de nostalgie. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut transformer cette nostalgie en joie? Qu'est-ce qu'on en fait de cette nostalgie? Est-ce qu'on en fait une force?
Parce que j'ai le sentiment que toutes ces couleurs, cette rondeur dans tes designs, etc., il y a ce côté, un truc pour peut-être chasser le spleen.
Oui, certainement, mais pas le spleen. Je suis pas très spleenée, mais en tous les cas, ça vient compenser cette nostalgie que ça m'apporte ce qui m'a manqué, n'est-ce pas? Donc oui, je suis pas quelqu'un de je trouve qu'il y a de la poésie dans la nostalgie, et donc je m'en sers. Je pense que même dans la façon dont je traite la couleur, je pense qu'il y a une poésie, c'est la poésie de la couleur. J'utilise les couleurs comme certains utilisent des mots. Et je pense que c'est
d'après toi, c'est quoi ton unfair advantage?
Mon quoi?
Unfair advantage. Désolé pour mon anglais.
My unfair advantage. J'en ai fait une force. Je suis une femme, peut-être issue de la diversité, je suis pas française d'origine, mais j'en ai fait une force, en fait. Donc, quand on a des unfair advantages, on les tourne en force.
Carrément. Je regarde dans mes petits papiers. Il y avait deux mots qui reviennent. La première, ça ressemble à quoi tes journées? Tu travailles beaucoup, tu disais que c'est très chronophage.
Je dis chronophage dans la production d'un projet. C'est chronophage parce que parce qu'il y a toujours des détails à régler partout. C'est un métier de détail, en fait. Donc oui, même quand on fait du meuble, c'est du détail. Et de l'objet encore plus. Mais oui, je travaille beaucoup, mais quand je suis à Paris, je fais le tour du pâté de maison et je vais au studio et je travaille avec mes équipes, bien sûr. Et puis, et quand je suis pas à Paris, je me déplace pour aller soit voir un chantier, soit pour aller rencontrer des clients, soit pour juste m'isoler et être un peu à Arles aussi, parce que j'ai besoin de ces moments de vide, mais qui me permettent de travailler un peu différemment.
Donc t'as une petite équipe. Comment tu te sens leader de ton équipe? Tu te sens inspirante? Comment t'arrives en fait à emmener les gens avec toi?
Ça je sais pas trop. Ça se fait de façon, on y pense pas trop. Je pense pas avoir des qualités de manager du tout, mais en tous les cas, j'essaye de rassembler. Et justement, si je travaille pas avec une grande équipe, c'est parce que j'ai besoin d'avoir une relation personnelle avec chacun d'eux, pouvoir travailler ensemble. Et je pense que je rassemble parce que je pense aussi que je laisse la place à chacun d'eux pour s'exprimer. Et moi, c'est pas moi qui donne toutes les idées, c'est un travail collectif. Et donc, je pense que chacun d'eux s'y retrouve. Je pense que on a la chance d'avoir de très très beaux projets avec une certaine liberté. Et donc, ça, c'est déjà génial. Je pense que de travailler dans un bureau aussi qui est pas non plus hors d'échelle. J'ai quand même une éthique. Je fais attention à ce que ce soit un écosystème sustainable, à promouvoir des savoir-faire, à promouvoir des ateliers et des savoir-faire français. Je pense que tout ça, c'est un modèle qui fonctionne. Mmh. Et j'aime bien aussi travailler avec des gens qui viennent de parcours très différents. Et ça aussi, c'est de nationalités différentes et de parcours différents. On fait des écoles, j'ai des designers textiles comme des designers, comme des architectes ou des architectes d'intérieur. J'aime bien que ce soit aussi à l'intérieur de mon studio qu'il y ait une diversité de formations. Mmh.
Tu refuses des clients ?
C'est pas que je refuse des clients, je refuse certains projets. C'est pas que je dis toi, je veux pas que travailler avec toi. Non, je refuse des projets qui sont hors d'échelle où je sais que où je vais produire quelque chose où j'ai pas ma place. Oui, j'en refuse bien sûr.
Parce que tu pourrais être beaucoup plus grosse finalement, non ? Tu pourrais avoir une énorme équipe.
Oui, j'aurais pu.
Et c'est ce besoin de rester à taille humaine.
Moi, je ne crois pas à la croissance
exponentielle.
Ouais. Et je ne cherche pas ça dans ma vie. Je pense que j'ai trouvé aussi un équilibre de vie qui fonctionne pour moi, par rapport à qui je suis, par rapport à mes besoins et je pense que j'aime bien être spécifique dans mes réponses, dans ce que j'ai envie de dire, dans ma façon de travailler, et que ça marche à une certaine échelle. Et après, travailler avec une centaine de personnes, ça veut dire avoir des directeurs, des sous-directeurs, des sous-sous-directeurs. Je veux dire, ça me ressemble pas. Donc, forcément, on crée malgré soi un environnement qui vous corresponde.
Écoute, je pense que c'est pas mal. On a fait un grand tour quand même. Est-ce que tu penses qu'on a... J'ai loupé des choses
Je réfléchis. Est-ce que j'ai parlé de...
Sustainability, peut-être. C'est un sujet quand même qui... Qui est important, qui est d'actualité depuis quelques années maintenant.
Absolument.
Comment tu vois ton métier comment ton travail s'inscrit dans cette idée de sustainability?
C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, non seulement d'un point de vue énergétique et pouvoir intégrer toutes les... Ce qui n'est pas forcément facile d'ailleurs, parce que souvent on se retrouve à réhabiliter des bâtiments qui sont dans des villes qui ne permettent pas, ou dans des quartiers qui ne permettent pas de travailler avec des énergies nouvelles, parce qu'on ne peut pas mettre des panneaux solaires, parce que c'est interdit. Parfois les bâtiments sont tellement complexes que c'est compliqué d'intervenir de cette façon. Moi, ma façon de répondre, c'est vraiment de travailler avec du local. Travailler avec des personnes locales, de travailler avec des ressources locales. Peut-être de pas systématiquement refaire les choses. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est... Moi, j'ai refait ma maison à Arles, quand je l'ai rénovée. J'ai essayé de conserver tout ce qui fonctionnait. Même si ça avait pas été mes premiers choix. Donc, j'ai conservé un carrelage des années 70 de Villeroy-et-Bock qui aurait jamais été mon premier choix. J'ai essayé de conserver les portes, les fenêtres, tout ce qui était en bon état et qui fonctionnait, même si ça avait pas été mes premiers choix. J'ai tout gardé et j'ai travaillé autour de ça. Et il y a des choses que je n'ai même pas imaginé juste rénover. Et je pense que dans mon approche, même pour mes clients, je dis non, mais ça on peut conserver, on n'a pas besoin de refaire. Soyons raisonnables et jouons autour de ça plutôt que de systématiquement défaire pour refaire. Et puis après, il y a aussi les circuits. Donc, garder tout en circuit court, ça me paraît très important. Et si j'utilise une pierre, c'est la pierre locale, c'est du gravier. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Travailler avec des artisans, faire travailler des artisans le plus possible.
Je comprends. Qu'est-ce que tu as envie de laisser au monde ?
Je sais pas. Je sais pas. Je pense pas trop à cette question. L'idée qu'on peut abolir les frontières entre plein de décloisonner en fait ces disciplines. Et je pense que ça se fait dans plein de pays. Et on peut, toi-même, tu m'as dit que tu fais ces podcasts, mais que tu as aussi une ligne de vêtements, et que tu as été restaurateur. Et en fait, les choses, il y a des résonances entre chaque métier. Mmh. Et il faut savoir utiliser ces résonances pour pouvoir se nourrir. On peut s'inspirer d'un autre métier pour en faire un. Tout peut être une inspiration. Donc je pense que, ouais, décloisonner, c'est vraiment important. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire aussi bien de l'idée de travailler dans l'industrie du luxe que de travailler pour des enseignes plus populaires comme Monoprix. Ça me paraissait important de pouvoir démocratiser à un moment ce que j'ai pu faire, mais de travailler aussi bien à des échelles d'architecture qu'à dessiner des objets plus petits, mais aussi de pouvoir travailler en Norvège et puis dans le désert en Égypte ou au Mexique, au Japon. Et d'avoir cette espèce de flexibilité. J'aime bien faire le grand écart. Mmh. J'aime bien l'idée de souplesse.
Très bien. Alors pour clôturer, j'ai quelques questions de mon audience qui sont celles-ci. Il y a Soufresco qui dit « Quand vous dessinez un hôtel, un restaurant, avez-vous déjà imaginé l'expérience client qui va avec ?» J'imagine que oui.
Bien sûr.
Bien sûr.
D'ailleurs, je ne dessine que comme ça. C'est-à-dire que quand je dessine un plan... Mmh. Je pense parfois, je crée un personnage imaginaire. Mmh. Je dis, voilà, ce projet-là, je le dessine pour...
Bernard.
Pour Bernard, pour James, j'en sais rien. Mmh. Ou pour Annette, je sais pas, je peux créer des personnages. Je me dis, mais tiens, qui va aller là ? Et j'imagine un personnage, je me dis, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir ? Qu'est-ce qu'il aurait envie d'avoir ? Mmh.
Il y a Rita qui demande quelles sont les autres femmes contemporaines qui t'inspirent ?
Les autres femmes dans mon métier ou...
Ton métier ou plus largement, je pense, dans d'autres métiers ?
Dans mon métier, je dirais quelqu'un comme Patricia Urquela, je la trouve assez formidable. Alors elle a un parcours à l'inverse de moi. Elle a commencé par le design et puis elle s'est mise à faire de l'espace. Mais je trouve qu'elle a une écriture personnelle. Elle a vraiment apporté au mobilier quelque chose de féminin avec une utilisation des tissus, du textile incroyable. Je pense à, dans un autre domaine, Maya Hoffman.
Ouais.
Qui, avec la fondation Luma, je pense qu'elle fait un travail extraordinaire parce qu'elle offre un territoire de pensée aux artistes, aux philosophes, et c'est un lieu d'échange incroyable, une façon de voir le monde assez nouveau. Et puis je peux penser à des femmes très engagées comme Golshifteh Farahani. Est une artiste assez complète. Il y en a plein, il y a des femmes formidables partout.
Mmh. Ouais, c'est sûr. Cédiary nous demande s'il faut commencer par dessiner un objet, par lequel il faut commencer.
C'est une question étrange parce que ça dépend un objet. L'objet le plus dur, c'est la chaise. Voilà. Donc je pense que c'est pas mal de commencer par une chaise parce que une chaise c'est plein de contraintes. Mmh. Et quand on a plein de contraintes, ça aide beaucoup.
Très bien. T'en as fait des chaises toi ?
Oui, j'en ai fait.
Sarina nous demande où trouve-t-elle ses inspirations ? T'en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais tu fais des photos partout ?
Oui, je fais des photos, mais Mon inspiration vient beaucoup de ma mémoire, de lieux que je, de choses que j'ai vécues. Et parfois, je suis comme un, de la même façon qu'un acteur parfois convoque des émotions qu'il a vécues dans, pour reproduire une scène. Moi, j'essaye de, je convoque ma mémoire ou des expériences que j'ai vécues, des lieux que j'ai vus. Oui, juste des souvenirs comme ça. Mais des photos, c'est pas pour, aussi, c'est, quand on fait des photos, c'est pas pour copier, c'est juste, moi, ça, c'est comme un carnet de notes, en fait. C'est des choses qui me parlent. Et donc, j'essaie de m'en souvenir. Et au lieu de faire un petit croquis, je fais une photo, ça va plus vite.
T'as été beaucoup copié?
Ah oui, beaucoup. Mais énormément, et encore aujourd'hui.
Comment tu le, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu...
Bah, je pense que c'est la rançon du succès, comme on dit. Et ça dépend comment c'est copié, comment et à quelle échelle. Et voilà, mais je peux pas passer ma vie à faire des procès. C'est pas dans mon, c'est pas ce que j'aime faire. Mais quand il y a des exagérations, oui, je suis en colère quand je sais que les gens ont la possibilité de faire autrement. C'est-à-dire que si c'est une société qui est très établie, qui se met à me copier, je sais qu'ils ont les moyens de faire autrement. Donc là, je suis pas contente. Quand il y a des jeunes étudiants qui copient, mais, voilà, c'est une façon de s'approprier le travail de quelqu'un d'autre pour parce qu'ils sont, il y a une forme d'admiration et parfois on copie même sans en avoir conscience.
Très bien. À quand un nouveau livre sur la décoration? Karine nous demande. T'as sorti un livre il n'y a pas très longtemps quand même, non?
Mais j'ai sorti mon livre il y a 2 ans maintenant.
Déjà, ouais. Voilà.
C'est pas un livre sur la décoration. Déjà, j'aime pas tellement ce mot décoration.
D'accord.
Ce serait plutôt... dès que j'ai le temps, je ferai un nouveau, peut-être le tome 2 de celui-ci, qui est... un livre qui sont sur les 20 premières années de ma carrière, qui retrace les projets les plus importants. Mais c'est pas forcément un livre sur ça. C'est, j'aimerais bien faire un livre sur les projets que j'ai pas réalisés, par exemple, ou j'aimerais bien faire un livre. J'aime beaucoup faire les photos. Et j'aimerais bien faire un livre aussi de, des photos, des fragments qui m'inspirent. Ça m'intéresse. Peut-être faire un livre sur des projets plus précis, par exemple sur ma maison à Arles, qui est une maison importante pour moi parce que c'est ma première maison.
Très bien, parfait. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Une dernière question pour transmettre le relais, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast?
Les M&M.
Très bien. Eh ben, je vais leur réécrire.
Voilà.
Ils m'ont pas répondu encore.
Tu leur as écrit déjà?
Ouais, je leur ai écrit déjà, mais bon, j'imagine qu'ils sont très busy et qu'ils sont... Je sais pas, on peut réessayer avec toi peut-être, tu les connais bien?
Oui, je connais un peu, ouais.
Ouais. Je vais te demander 2-3 intros, alors, parce que j'ai l'impression que tu connais du beau monde quand même. Merci infiniment, c'était génial, et merci pour ton temps, pour ton accueil, pour ta générosité. Bonne chance, longue vie à India Madhavi. Salut.
Merci Adrien, c'est super, bye bye.
Je suis Adrien Garcia et vous venez d'écouter The Bold Way. Retrouvez l'épisode en texte et en images sur theboldway.fr. The Bold Way est là où la créativité et l'innovation rencontrent le business. Merci pour votre confiance et à bientôt pour un nouvel épisode.